C'est le moment, on est vendredi, de nos Globetrotters. Aujourd'hui, deux couples, mais deux couples de générations différentes et dans des endroits différents de notre planète. Un couple en Afrique, au Madagascar, et l'autre en Alaska, dans une usine de saumon. On va commencer par le pays chaud, si vous voulez, avec Anastasia et Sylvain Nicollier. Alors Sylvain Nicollier, c'est Suisse, moi, son projet, où il réalise des voyages. Il accomplit des défis demandés par ceux qui le suivent sur des réseaux sociaux, mais c'est aussi un homme physique qui a le contact facile et qui ne voyage pas seul. On l'a déjà entendu deux fois. Quand on l'a entendu, c'était le seul à s'exprimer. Cette fois, on va l'entendre avec sa compagne de route, c'est sa femme, Anastasia. Et c'est un vrai plus de les entendre tous les deux, car ils se complètent bien et ils ont chacun leur point de vue. Ils sont donc sur l'île de Madagascar depuis plusieurs semaines, un pays pauvre, vous le savez, où la dernière fois, on les avait entendus évoquer une épidémie de peste qui arrive sur l'île, principalement sur la capitale. Malheureusement, cette maladie qui peut nous sembler en Europe d'un autre âge sévit encore à Madagascar depuis les années 80. Et c'est bien sûr la conséquence de l'extrême pauvreté de l'île. Alors comment ont-ils géré cette épidémie de peste, les Nicolliers? Est-ce que ça a changé leur plan? On les écoute. Anastasia et Sylvain Nicollier, une réalisation de Christian Morero.
La question de peste s'est résolue assez facilement. On a parti de l'autre côté de l'île, là où ils n'ont jamais entendu parler de peste. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. On est parti sur la côte ouest de Madagascar, donc celle qui donne sur l'Afrique. Et on a passé presque un mois sur cette côte ouest, dans les coins hyper perdus. Du coup, voilà, la peste, c'était loin.
Il y avait la grande ville, la capitale, Antananarivo, où vraiment il y avait une grosse épidémie. Et du coup, on a décidé de la quitter, puis de descendre une rivière en pirogue pendant 3 jours. Et puis après, on a suivi la côte. On s'est vraiment perdu dans Madagascar.
Et là, vous êtes partis tout seul comme des grands un peu inconscients, ou vous étiez avec un guide et des locaux?
On est parti descendre cette rivière à Monamboul, en pirogue avec les guides, les porteurs, tout un groupe en fait. On était 7 touristes. Pour à peu près une vingtaine de personnel, si on peut dire, autour de nous.
Ouais, Madagascar, c'est pas dangereux du tout, mais il faut quand même prendre des petites précautions. La rivière, elle est réputée dangereuse si tu vas tout seul. Donc, c'était bien d'être avec des piroguiers qui connaissaient les différents chefs locaux, qui connaissaient les gens sur la route.
Le danger principal dans cette région-là, c'est que c'est peu touristique. Et en même temps, ils ont leurs petits soucis intertribal, si on peut dire ça. C'est ce qu'on appelle les voleurs de zébus. Et comme les zébus, ça vaut cher, du coup, ça peut déclencher une mini-guerre. Donc, on a vu pas mal de gens avec des blessures de balles, des gens qui étaient à la chasse des bandits qui ont volé les zébus. Du coup, là, c'était un peu l'ambiance tendue, mais ça ne concerne pas les touristes, en fait. C'est juste qu'il ne faut pas être dans un mauvais endroit à un mauvais moment, et c'est tout. Et ça, justement, c'est les guides locaux qui connaissent le mieux la situation, qui peuvent éviter tout ça.
À quoi elle ressemble, cette rivière?
C'est le fleuve Monamboul, donc un fleuve très long, mais à cette période, elle est super peu profonde. Et en fait, il y a très peu d'eau, parce qu'on est juste au début de saison de pluie, et elle est toute brune, cette eau, et c'est assez spectaculaire. Pendant plusieurs jours, on a traversé que des paysages assez plats. Pour le troisième dernier jour, on arrivait dans les canyons. Et ça, c'était génial parce qu'on était au fond des canyons. Du coup, c'était plus profond et les paysages, c'était juste incroyable avec les murs verticaux qui tombaient sur nous. C'était assez spectaculaire.
Ouais, c'est une rivière qui n'a pas du tout été touchée par l'homme. Donc, elle serpente. Il y a vraiment plein de virages, et même dans ces virages-là, nous on doit faire des virages à l'intérieur de la rivière pour garder les endroits les plus profonds, parce que sinon on doit sortir du canoë puis marcher dans l'eau. Des fois l'eau nous arrive à peine en dessous du genou. On voit des cultures, on voit différentes personnes qui travaillent au bord, qui viennent boire. Les locaux, ils font des trous dans la rivière, ils font une barrière de sable, une espèce de rond, et ils boivent l'eau directement qui est toujours brune. Donc nous, on n'a pas essayé. Et on a une petite anecdote assez drôle, c'est qu'on a laissé une bouteille d'eau où il restait, une gorgée dedans. Et puis il y a une jeune fille qui l'a pris, qui a renversé dans un bouchon un petit peu d'eau. Elle a goûté du bout de la langue et elle a préféré recracher cette eau-là qu'elle trouvait vraiment bizarre.
Du coup, vous avez fait comment? Vous aviez des tonnes d'eau et de nourriture avec vous?
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on avait pas mal de porteurs avec nous, avec les piroguiers et même un chef cuisinier. qui a fait juste des miracles culinaires. Je sais pas comment il a fait ça, mais c'était trop bon ce qu'il a cuisiné à chaque fois différent, avec les apéros, avec le punch tous les soirs, avec plein très dessert. Super.
Et c'était assez drôle parce qu'en fait, on est parti avec une énorme quantité de rhum sur le bateau. On devait avoir des bidons de 30 litres de rhum. Et en fait, c'était une monnaie d'échange pour après se réapprovisionner en nourriture sur le chemin, où il y avait déjà des gens qui avaient commandé du rhum pour des cérémonies de mariage. Donc au fur et à mesure qu'on descendait la rivière, on avait des rendez-vous avec des locaux qui attendaient leurs bidons de rhum.
Donc vous êtes en pirogue, il y a des porteurs, vous êtes en Afrique. Il n'y a pas un petit côté Tintin au Congo? Vous ne vous sentez pas comme ça un peu dans le cliché du blanc en Afrique?
C'est le moment, Milou, allons-y.
C'est vrai que ça pose beaucoup de questions à Madagascar. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des porteurs, on a des piroguiers, eux, ils sont super contents vraiment de pouvoir travailler, d'avoir un salaire. Eux, justement, nos piroguiers, c'est impressionnant. On faisait 3 jours de descente de rivière. Et après, ils allaient remonter pendant 5 jours dans leur village, qui est plus accessible quelques mois après, parce que c'est la saison des pluies. Et du coup, c'est vraiment un village enclavé. Et eux, ils profitaient du salaire, du travail qu'ils allaient fournir avec nous, du pourboire qu'on allait leur donner, pour vraiment stocker de la nourriture pour la saison des pluies. Bah, avec eux, on a eu un contact particulier. On faisait des chants parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. On chantait sur la pirogue, on échangeait, certains parlaient bien français.
Moi, je chantais en russe, du coup, c'était drôle, et c'est pour eux, parce qu'ils n'ont jamais entendu du russe, encore moins le rap russe, donc du coup, c'était vraiment...
Vous leur chantiez du rap russe?
Ouais. Quand tu fais 3 jours de pirogue qui avance pas, il fait très chaud, bah, il faut bien s'amuser.
Il y avait d'autres touristes avec vous, vous nous avez dit?
Oui, on est tombé dans un groupe très sympathique. Une jeune fille avec sa maman anglaise et une famille...
Alors ouais, c'est un peu compliqué. Alors, le père est suisse, mais vit à Bali depuis une vingtaine d'années, alors que sa femme, elle, vit au Québec, est anglaise, et ils ont un fils qui, lui, vit aussi au Québec et qui est fanatique des araignées sauteuses. Donc c'était vraiment drôle parce que... Il se baladait partout avec des petites boîtes. Et puis au lieu de se poser pour manger et se reposer, lui il partait à la recherche d'araignées dans les buissons, par terre. Et il revenait chaque fois avec des araignées. Et le soir il devait les nourrir. Donc il cherchait après le soir des moustiques, des petits moucherons pour leur donner à manger.
Il y a beaucoup d'animaux, ça grouille et on voit tout le temps des animaux qu'on le veuille ou non, ou pas tellement?
Non, pas du tout, on voit beaucoup d'oiseaux. Et une fois on a vu un lémurien.
Il y avait des caméléons par contre.
Ah oui,
il faut savoir qu'à Madagascar, il y a des caméléons partout. Après, mieux vaut être avec un guide. Si tu n'es pas avec un guide, tu peux être à 10 cm de lui. Même le guide dit le monde du doigt, tu ne vas jamais le voir.
Avec cette rivière, vous êtes arrivé jusqu'à l'océan ou vous êtes arrêté avant?
On était arrêté avant. On est arrivé dans un petit village qui s'appelle Bekupak, qui est connu pour être le seul point d'accès au Tsing. Et le Tsing, c'est le point d'intérêt, d'attraction de tous les touristes à Madagascar. Notre guide nous a dit qu'il avait des touristes japonais qui ont passé 4 jours à Madagascar. 4 jours, hein? Nous on passe 3 mois, on trouve que c'est pas assez. Mais les touristes japonais, ils passent 4 jours à Madagascar et évidemment, ils font le Tsing. Donc, je te laisse imaginer la différence, le contraste entre cette rivière où il n'y a jamais personne qui passe et le Tsing où il y a... Tout le monde qui va, c'est obligatoire.
Donc les Tsing, c'est des rochers calcaires hyper pointus. Donc ça donne leur nom parce que quand tu tapes dessus, ça fait presque ting ting. Comme ça, tellement qu'ils sont fins et pointus. Donc c'est des montagnes remplies de petits pics où il est impossible de marcher sans se transpercer la chaussure.
Du coup, quand vous arrivez là, il y a quoi? Il y a des bus, il y a des hordes de touristes avec appareils photo et bananes, il y a des stands de glace. C'est vraiment le tourisme de masse tout d'un coup?
Tout à fait, sauf qu'il n'y a pas de bus parce que la route pour arriver là-bas est
pas de glace non plus.
Inaccessible.
Non, disons que c'est vraiment des groupes en 4x4. Il faut imaginer que pour traverser la rivière qu'on a descendu en kayak, certaines se font directement avec le 4x4 à même la rivière, ou sinon il y a des bacs flottants qui sont des espèces de bateaux où ils ont mis du bois dessus pour que la surface soit plate et puis ils transbordent des 4x4 là-dessus. Puis après la route d'accès n'est pas bonne, donc vraiment on est dans une région qui est accessible qu'en 4x4.
Il n'y a que du 4x4, mais il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et après, effectivement, il y a des hordes de touristes de tout âge, beaucoup de touristes âgés, de toutes formes physiques, on va dire. Et il fait hyper chaud, du coup, c'était un spectacle assez extraordinaire de voir tout un coup plein de touristes autour de nous dans ce parc de Tsing.
Après ce lieu hautement touristique et pointu, vous êtes allé où ?
Dans un autre lieu hautement touristique et pointu, c'était l'allée des Baobabs. En fait, c'est sur la même route. Quand tu pars de Tsing, tu n'as un peu pas le choix, tu passes par l'allée des Baobabs, parce que c'est la région connue pour ces Baobabs. Il y a 6 sortes endémiques de Baobabs à Madagascar, et ils sont tous dans cette région-là, donc il y avait des choses à voir. Et l'allée des Baobabs, c'est un site très touristique aussi, c'est l'endroit le plus photographié de tout le Madagascar, et c'est assez spectaculaire. Il y a cette route nationale, et elle est entourée de Baobabs de au moins 600 ans. Donc je vous laisse imaginer, c'est des gros arbres très hauts, très larges.
Disons quoi, les baobabs, c'est ces arbres avec des troncs énormes et des branches un peu disproportionnées, plus petites que le tronc, parce que le tronc est comme une mousse et il absorbe l'eau. Donc en fait, il fait sa réserve d'eau pour prévenir des grosses sécheresses. Et puis c'est un arbre qui est magnifique à le voir, c'est gigantesque. Il y a des baobabs sacrés qui sont énormes. Et puis sur cette route, il y en a vraiment beaucoup qui s'enchaînent. C'est vraiment beau à voir.
Il y en a aussi beaucoup parce qu'apparemment tu peux rien en faire. Du coup, les locaux, ils les coupent pas.
Ah ouais, ils les brûlent pas, c'est vrai.
Ils brûlent pas. Ouais,
ouais. Parce ça résiste au feu aussi.
Ça résiste au feu. Après, les locaux, ils en ont pas besoin pour faire leur maison ou leur pirogue. Du coup, ça reste. Ça peut être tout plat, aucune forêt, mais les baobabs, c'est toujours là.
C'est vrai qu'il y a un grand problème à Madagascar, c'est la déforestation. Il y a beaucoup de locaux qui coupent les arbres simplement pour vendre du bois ou du charbon parce que toute la cuisine se fait au charbon. Après, il y en a beaucoup qui brûlent les prairies pour refaire pousser de l'herbe pour que les zébus puissent manger ou pour espérer, selon les coutumes ancestrales, une meilleure récolte, un terrain plus fertile, ce qui n'est pas le cas, mais qu'ils continuent de faire. J'ai entendu des chiffres, je crois que 90% de la forêt de Madagascar a déjà brûlé. Donc c'est vraiment impressionnant. Là, quand on est arrivé dans le nord, on a survolé Madagascar en avion et on voyait des feux de brousse, mais partout. Et des fois, c'est des parcs nationaux qui brûlent, quoi. C'est vraiment désolant, mais en même temps, on peut vraiment rien faire, quoi. C'est triste.
Ça fait plusieurs semaines, largement, que vous êtes à Madagascar. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision de l'île par rapport à quand vous êtes arrivé à la capitale les premiers jours ?
La capitale, de toute façon, c'est vraiment différent du reste. C'est une région où les gens ils bossent à fond, où il fait pas beau, il fait froid, où c'est spécialement pollué. Alors que le reste de Madagascar, par exemple là, on est au bord de la côte. Les gens, ils parlent doucement, ils marchent doucement. Quoi, c'est vraiment, ils appellent ça mora mora, c'est tranquille, tranquille. Les choses se passent, si ça se passe pas aujourd'hui, ça sera peut-être après-demain, mais en tout cas, on va pas se presser. Donc la capitale, c'est un lieu à part, je crois. On ne se sent pas à Madagascar vraiment.
Bah, en fait, il y a toutes les régions, elles sont tellement différentes que c'est dur à dire si c'est la vision qui a changé parce qu'on est plusieurs mois ici, ou c'est vraiment chaque région est différente et c'est ça qui change.
Là, vous êtes toujours sur la côte ouest ?
Non, là, non. On est à côte est. Justement, on est arrivé il y a une semaine.
On était dans des paysages désertiques, dans le désert, où il n'y a pas d'eau. Et là, on arrive sur une côte où il pleut tous les jours, où la végétation est luxuriante, où il y a de l'eau. Bon, du coup, plein de moustiques, on n'arrête pas de se gratter. Mais ça fait des grands changements au niveau des paysages.
Vous, Anastasia, vous l'avez dit, vous êtes russe. On le reconnaît aussi à votre accent charmant, pour faire un cliché, mais c'est vrai. Vous êtes arrivée il y a longtemps en Suisse ?
Oui, je suis arrivée il y a 6 ans. J'ai grandi à Saint-Pétersbourg.
Par rapport à Sylvain, qui lui est un Suisse pur jus, si je dis pas de bêtises, hein, parce que les Suisses sont souvent résultat de mélange, vous pensez que le fait d'avoir vécu 20 ans en Russie, vous avez un autre regard que lui sur certaines choses ?
Bon, Sylvain, déjà, il n'est pas un Suisse comme on a l'habitude de le voir. Enfin, c'est difficile de standardiser comme ça par nationalité. Moi aussi, en tant russe, tu vois, moi, je compare un peu tout avec mon pays à moi, parce qu'il y a beaucoup de pays qu'on visite, dont Madagascar aussi, où je retrouve quand même les mêmes habitudes, les mêmes traces. Madagascar, c'est un pays très corrompu, du coup, je retrouve quand même malheureusement la même corruption en Russie. Et quand ils se plaignent ici que voilà, on doit payer à tout le monde. Sylvain est en Suisse, il ne comprend pas. Il dit, mais comment tu peux payer un policier pour faire quelque chose? Et je dis, mais bien sûr que tu peux payer un policier, tu peux payer n'importe qui, tu as un peu de l'argent.
C'est vrai.
Et ça, malheureusement, enfin, ce n'est pas le meilleur exemple, mais c'est ce que je retrouve beaucoup dans ce pays par rapport au mien. Et moi, ça m'aide à comprendre pas mal de choses. Quand on nous dit qu'il faut absolument aller acheter les billets en avance tout de suite parce qu'après ça va fermer à 6h, moi j'ai un petit doute, je dis non mais c'est pas possible, tu peux toujours, au pire tu payes un peu plus, mais tu peux toujours acheter tout au dernier moment. Enfin, justement parce que j'ai grandi comme ça en Russie et la corruption ça facilite pas mal de choses de temps en temps.
Vous êtes une bonne équipe quoi, vous complétez les deux.
Ouais, il faut bien hein, quand on voyage 3 mois ensemble.
Réalisation par l'excellent Christian Morero. La prochaine fois qu'on va entendre Sylvain et Anastasia Nicolier, donc ils seront sur l'est de l'île, on verra déjà s'ils se seront fait dévorer vivants par tous les moustiques qui volaient par là. Et puis on leur a aussi demandé, c'est une tradition dans cette séquence du vendredi, quelle est la suite de leur programme?
Donc là, on reste sur la côte est jusqu'à la fin. On passe quelques jours au bord de la mer. On va aller dans une grande ville qui s'appelle Tamatave pour aider un copain d'organiser une action humanitaire. On va essayer de nourrir des personnes sans-abri à Tamatave. Et après, on se pose dans le canal des Pangalan. Apparemment, c'est un endroit aussi assez magique. C'est un canal qui a été creusé pour éviter la mer qui est assez déchaînée du côté est. Donc c'est un canal qui descend de nord au sud de Madagascar sur le long de 650 km. Donc il traverse quasi la moitié de Madagascar pour justement pouvoir assurer la liaison maritime, enfin par l'eau quoi.
Standing on their heads, they're ready. They're looking out.
Look out!
C'était le choix de Nathalie Schauenberg, qui s'appelle Excellent Birds, un titre effectivement des années 80, vous l'avez sûrement deviné, un duo entre Laurie Anderson et Peter Gabriel. C'est vendredi, vendredi dans À l'abordage, on suit nos Globetrotters, place à notre deuxième duo de voyageurs. On les a suivis depuis le Japon, c'est Marc Decray et Sylvie Cohen à bord de leur bateau, Shamad. Ils étaient partis vers Vladivostok, ils ont remonté les côtes russes, ils ont visité bon nombre de coins improbables et de bases militaires désertes. Puis, ils ont suivi les îles Aléoutiennes, un chapelet d'îles disséminées entre la Russie et les États-Unis sur des centaines de kilomètres. Des îles sans arbres, des îles volcaniques, le tout dans une météo particulièrement maussade. Ils n'ont pas eu de chance, les deux, sur leur bateau avec la météo, parce que ces îles sont superbes. Et au lieu de voir des îles superbes, ils ont surtout vu de la brume. Mais toute bonne chose a une fin. Et voilà notre équipage qui arrive enfin aux États-Unis, qui arrive en Alaska. Mais alors, est-ce encore les îles Aléoutiennes? La réponse dans cet élément réalisé par Christian Morero.
Les Aléoutiennes, c'est l'Alaska, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu spécifique, dû à l'isolement essentiellement. Maintenant, on est encore un petit peu dans les Aléoutiennes, mais je dirais celles qui sont tout proches du bloc continental de l'Alaska. Donc oui, la première chose qui va changer, hein, puisqu'on est vraiment cette fois-ci proche du continent, c'est qu'il y a des gens. Les Aléoutiennes, il y avait très très peu de monde. Là, cette fois-ci, on est véritablement dans un monde habité. Bon, ça se bouscule pas, hein, y a encore un peu d'espace pour la nature. Mais disons, il y a des gens et donc il y a des rencontres. Et c'est vrai que les gens là ont une importance incroyable parce que ce sont tous des gens qui sont tous un tout petit peu quelque part déjantés.
Il y a des gens, puis commence à y avoir des arbres aussi. C'est assez intéressant de voir parce que le paysage commence à changer aussi.
Quel est le premier endroit, le premier port, la première île où vous vous dites « Ah là, on a changé, là c'est plus les îles volcaniques désertiques aléoutiennes et là on est dans quelque chose d'autre ».
C'est Dutch Harbor. Dutch Harbor, c'est encore dans les îles Aléoutiennes véritablement, on n'est pas encore sur le bloc continental. Par contre, c'est le plus grand port de pêche américain, du moins tonnage. Alors c'est assez étrange parce qu'on s'attend à voir quelque chose d'énorme, c'est pas énorme, hein. C'est une ville où il y a peut-être 2000-2500 habitants permanents, énormément de saisonniers qui viennent parce que ce sont que des conserveries. En gros, c'est des conserveries placées dans un port naturel extrêmement bien protégé, ce qui dans cette région est assez intéressant quand même. Et ce qui est assez particulier quand même de Charbourg, c'est que dans ce tonnage incroyable de poissons qui est débarqué dans cette ville, eh bien c'est que vous ne voyez pas un poisson. C'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Le poisson, il arrive dans les chalutiers, mais vous n'avez pas accès au quai, donc vous ne voyez pas comment le poisson est débarqué. De toute manière, il est débarqué par une sorte de gros aspirateurs qui sont directement mis dans les cales, et on aspire le poisson. Le poisson entre dans des halles où il va être conditionné, essentiellement congelé. De là, il part directement dans des containers frigorifiques, et de là, directement sur le gros bateau porte-container. En gros, le seul poisson qu'on ait vu à Dutch Harbor, il était congelé au supermarché dans une petite barquette.
Donc là, vous arrivez avec Shamad. Est-ce que vous êtes, je vous imagine, coincé entre d'énormes bateaux de pêche, pris dans un trafic, ou comment ça se passe, cette arrivée dans ce port si occupé?
Alors, énorme bateau de pêche, déjà une particularité, toute la pêche en Alaska, ce ne sont pas d'énormes bateaux. Nous, on a la vision effectivement de la pêche industrielle, les grands chalutiers et tout. L'essentiel de la pêche qui se passe en Alaska est une pêche plutôt familiale. Toute la pêche au saumon, par exemple, qui prend énormément d'importance, ce sont des bateaux de 4 à 5 personnes maximum. Et toute la pêche plus hauturière qui va se passer dans la mer de Bering, où on pêche d'autres choses, là, il y a quelques grands chalutiers, mais ceux-là, vous ne les voyez pratiquement jamais, ils viennent très très rarement et ils s'arrêtent dans une partie du port de Dutch, parce que Dutch est une grande baie. Donc il y a plusieurs endroits où on débarque. Là, on arrive avec le bateau, il y a juste un quai, un ponton flottant, vu qu'il y a pas mal de marées. Et à ce ponton flottant, il y a beaucoup de petits bateaux de pêche, donc je dirais familiaux, 3-4 personnes. C'est très occupé et on est tout content de trouver une petite place.
Il n'y a pas tellement de plaisanciers, ou bien vous êtes les seuls?
Non, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a quand même un petit flux, je dirais, de bateaux qui traversent du Japon vers l'Alaska, en moyenne 5-6 par année.
Et puis cette ville, du coup, les bâtiments ressemblent à quoi?
Alors, on ne peut jamais parler de ville. Je veux dire, c'est vrai que ce sont des espèces de bâtiments carrés, un peu genre containers, un peu partout.
Des hangars,
oui. Et puis des énormes supermarchés, des malls, quoi. Il y a des bâtiments, par exemple, beaucoup de bâtiments où sont logés les employés des pêcheries. Alors ça, il y en a pas mal. À côté de ça, il y a des petites maisons en bois, quelques-unes, mais pas grand-chose, quoi.
Mais voilà, quand on se rappelle peut-être de la Suisse et les baraquements de saisonniers, là c'est un tout petit peu mieux quand même au niveau du confort, mais c'est ça. En gros, les gens vivent pratiquement 8 mois par année dans une chambre qu'ils partagent en général avec une, voire deux ou trois personnes. C'est du travail et encore du travail. On travaille tous les jours, on travaille tout le temps.
16 heures par jour en général dans les pêcheries, 16 heures par jour de travail.
7 jours sur 7.
7 jours sur 7 et changement de poste toutes les 2 heures. Mais ils sont logés, nourris. Pour eux, c'est génial, ils gagnent 2000 dollars. On a rencontré des gens assez incroyables là-bas. On a rencontré une fois à Dutch Harbour un Mauritanien.
Devenu américain,
qui était déjà sur le continent, mais qui est venu travailler là, qui était là depuis des années, et qui est cuisinier, donc il travaille au mess. Et à côté de ça, il a monté son petit business de vente d'habits et de produits de sport. Et il fait ça par internet, il a ça dans sa chambre, les maillots de foot et de je sais pas quoi. Ça, c'est son petit business. On a rencontré aussi une Africaine qui venait de la République démocratique du Congo et qui avait gagné sa green card. Elle est venue en Alaska parce qu'elle savait qu'on gagne de l'argent avec le poisson.
Parce que c'est vrai, là on va en parler, Sylvie Cohen, Marc Decret, vous m'aviez dit la dernière fois, gagner de l'argent avec du poisson, vous parliez d'une fièvre du saumon. Il y a un petit côté rué vers l'or, sauf que ce n'est pas des pépites, c'est des écailles.
L'Alaska, il y a quasiment deux richesses. C'est le pétrole, c'est à peu près 90% des revenus de l'Alaska, et le poisson. Le poisson, c'est énorme, c'est très saisonnier. Ça ne correspond pas forcément, disons, à des milliers de gens. Mais là où ça travaille, on travaille de manière extrêmement intense. Il n'y a rien d'autre à y faire d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours des coins très isolés. Et on y fait beaucoup d'argent. Évidemment, quand on dit que ces gens gagnent 2 000-2 500 dollars par mois, mais il n'y a aucun frais. Donc en gros, lorsqu'ils vont travailler, ils viennent pour une saison, ils font 3, 4, 5, 6 mois, ils repartent avec 10, 15, 20 000 dollars cash dans la poche, net d'impôts, puisqu'on ne paye pas d'impôts en Alaska. Donc tout ça fait quand même des sommes intéressantes. Et dans le monde du saumon, si vous allez sur les bateaux,
parce que là, on parle des gens qui travaillent dans les conserveries.
Dans les conserveries. Et si vous allez sur les bateaux, ces petits bateaux où ils sont 3 ou 4, souvent d'ailleurs familiaux, au moment du plus haut de la saison, dans la baie de Bristol, qui est la zone la plus riche en saumon du monde, hein, eh bien, ces gens arrivent à faire 1000 dollars par jour, par personne sur le bateau. Alors, ils travaillent 23 heures sur 24, ils travaillent pendant un mois, mais à la fin du mois, ils repartent, ils ont 30 000 dollars en poche.
On avait rencontré à Kodiak une jeune fille qui était étudiante en sociologie. Elle avait eu son master. Elle avait travaillé un peu dans une ONG pendant quelques temps. Puis ensuite, elle est venue et elle a cherché du travail sur un bateau. Elle a été engagée sur un bateau avec, heureusement, nous a-t-elle raconté, un capitaine qui ne gueulait pas tout le temps. Et puis, elle a passé là 3 mois, dans la promiscuité la plus totale avec 2 autres étudiants et le patron. Elle n'a pas pris de douche pendant je ne sais pas combien de temps.
Quatre douches en 3 mois.
Et elle faisait le filet, elle remontait les filets, elle nettoyait les filets et la cuisine. Elle a gagné, nous a-t-elle dit, 20 000 dollars pour les 3 mois qu'elle a passés.
C'est très étrange parce qu'évidemment, de ce côté-là, quand on parle comme ça, on a l'impression que les gens sont très exploités. Ça donne 16 heures de travail, 7 jours sur 7, etc. En gros, c'est très étrange parce qu'en même temps, on n'a rencontré que des gens heureux. Vous allez dans ces pêcheries, c'est les temps modernes. Il y a des endroits où le poisson défile comme ça sur des tapis roulants. Mais vous arrivez là-dedans, vous avez juste envie de courir dehors, tellement ça paraît effroyable. Et les gens vous accueillent, ils ont le sourire, ils sont contents. Et puis, ils ne veulent surtout pas un jour de congé parce qu'ils ne savent pas que faire. C'est tellement ennuyeux. Donc, on travaille, ils ont ce besoin d'argent. C'est une autre mentalité, c'est très étrange. Et on a l'impression de dire que les pauvres sont tous exploités. Et puis en gros, à la sortie, on se dit, peut-être pas. Et c'est vrai que ces gens travaillent en moyenne 6, 7 mois par année. Et le reste du temps, eh bien, ils rentrent, ils voient leur famille, ils vivent en famille. Il y a un exemple. On a rencontré un couple de Suisses à Homer qui vit actuellement très bien. Lui me racontait, j'étais apprenti en mécanique de précision en Suisse. Quand je suis sorti, j'avais 19 ans, je voulais quand même pas aller travailler chez Sulzer. Alors il est parti en voyage. Et un jour, il arrive à Homer. Homer, c'est en face d'une baie, il y a des glaciers qui tombent. Il me dit, je me suis dit, c'est là que j'ai envie de vivre. Il a trouvé du travail à la pêche. Il a commencé justement à aller pêcher le saumon, à faire les salaires dont on parlait. Peut-être pas lui encore 1000 par jour, mais pas loin. Et rapidement, au bout de 4-5 ans, il a réussi à obtenir une licence parce qu'évidemment tout ça est limité et contrôlé. Il a pu devenir patron pêcheur. Il a eu son bateau et il a commencé effectivement à faire des années où il faisait en 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Il arrivait à faire 60-70 000 dollars. Et avec ça, ben, il a commencé à construire sa maison, qu'il a construit de ses propres mains. Une immense maison en rondin. Il faut voir le travail, c'est gigantesque. Il en a fait une maison quand on arrive aujourd'hui.
Un chalet suisse, il en a fait.
Ça fait une sorte de petit chalet suisse avec les géraniums et puis le petit jardin. Oui, 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 c'est très étonnant.
Il fait un lac devant où il y a les élans qui passent, quelques ours des fois.
Et on ne lui a jamais rien demandé. Il a acheté un terrain. Alors quand il dit « j'ai acheté un bout de terrain », ça faisait quand même un hectare. Hein. Donc tout ça est immense. Et lui me disait « mais tu vois, ici, mais... en Suisse, j'aurais jamais pu refaire ça. Ici, je suis libre. » Il a épousé une lucernoise qui était en touriste à Homer, qui est, elle, violoniste et pianiste. Ils ont créé, donc, vivent dans leur maison. Elle a créé un orchestre de chambre avec toutes les communautés environnantes. Enfin, c'est des choses tout à fait étonnantes. C'est un monde très, très spécial. Ce sont des gens heureux. Mais quand on le regarde, nous, on a l'impression que c'est de l'exploitation économique. Et c'est ça. Il y a un paradoxe, mais il faut l'accepter. Si vous allez en Alaska voir ces régions du saumon, alors il faut être bien d'accord, vous allez parler, vivre et penser saumon toute la journée. Il n'y a pas d'autre conversation que l'état du saumon, la quantité de saumon, comment marche le saumon, comment ça pêche. Ce n'est que ça.
Même et pas
c'est...
une équipe de foot, même pas la météo.
Ah non, le saumon. Le saumon,
fish,
le saumon.
Fish, fish, c'est tout ce qu'on entend dans les phrases. Ouais. Fish.
Il y a un côté un peu casino, parce que c'est un peu comme au casino. En gros, on jette le filet, puis de temps en temps, mais on ramasse la mise, de temps en temps un peu moins. Donc je pense que ça entretient une véritable addiction. Et cette addiction, là-bas, elle m'a paru vraiment très très forte, elle m'a sauté aux yeux. Mais cela dit, j'ai un peu l'impression que dans le monde de la pêche, il y a quand même un problème addictif. Par exemple, vous avez un bateau qui arrive, il vient au port parce qu'ils ont une petite réparation mécanique, ils doivent peut-être rester 24 heures au port. Que font les équipages pendant ces 24 heures d'attente? Vous les voyez sur le ponton et ils jettent une ligne à l'eau. Vous dites, mais enfin, c'est pas possible. Et je me rappelle d'un monsieur qui s'appelle Manu, qui est pêcheur à Morges, qui était venu avec nous au Japon, avec qui on avait fait tout un film et tout un reportage sur la pêche au Japon. Eh bien, Manu, pêcheur professionnel qui pêche le filet tous les jours, eh bien, lorsqu'il a 15 jours de vacances, qu'est-ce qu'il fait ?
Il va pêcher.
Il va la pêche à la ligne. Il y a quand même une addiction, c'est pas possible.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils savent bien protéger leurs ressources là-bas. Tous les matins à la radio, on entend telle baie est fermée, telle baie est ouverte. Ils font des comptages de saumon. Et quand il n'y en a plus assez qui remontent les rivières, ils ferment. Un consommateur de saumon effréné, c'est l'ours qui fait concurrence à l'homme dans la pêche.
Vous avez croisé comment un ours ?
Pas sur le rivage, on arrivait dans une baie. Il y a, dans l'île de Kodiak en particulier, il y a énormément d'ours et des ours qui sont énormes. Quand ils sont debout, ils ont 3 mètres et plus même. Enfin, c'est énorme.
C'est plus gros ours du monde.
Du monde, ouais. Quand on arrive dans des baies, il y a, surtout à l'époque où les saumons commencent à remonter les rivières, juste avant, ils sont sur les rivages et ils chassent le saumon. Je veux dire, on a vu une mère avec 2 petits là, qui s'est mise à courir dans l'eau, en giclant de tous les côtés. Elle, tout d'un coup, ça part, mais comme une fusée, et hop, elle revient avec un poisson. Et ce qui est absolument magique, c'est les saumons qui sautent. Parce que les saumons sont des danseurs absolument extraordinaires, et pas que c'est une danse nuptiale. Et là aussi, avec les ours, c'était génial, parce qu'on voyait les saumons qui sautaient comme ça devant l'ours, et l'ours qui regardait, puis tout d'un coup, hop, qui fonçait en prendre un dans l'eau. Mais ils sautent d'une façon incroyable.
Réalisation Christian Morero, Sylvie Cohen et Marc Decret. Si vous avez envie de mettre des images sur toutes ces paroles, si vous avez envie d'aller un peu plus en détail dans leurs aventures, eh bien ne manquez pas leur site très bien fait avec plein d'infos supplémentaires et de photos, chamade.ch. Et puis la prochaine fois qu'on va les rencontrer, ils vont nous parler de ça.
Alors oui, ça c'est un grand projet qu'on avait depuis... passablement de temps quand même. C'était un jour le rêve d'avoir et d'accueillir des écrivains à bord, puisque nous avons toujours essayé de monter des projets qui souvent sont des projets artistiques, c'est-à-dire en gros d'utiliser ou de faire du bateau un lieu de création. Et c'est vrai qu'au moment où on a pensé à Alaska, on a pensé au retour dans ces territoires qui sont quand même incroyablement suggestifs. C'est vraiment un lieu qui pousse à l'inspiration, parce qu'il y a toujours ce côté mystérieux. On a dit les brouillards et autres, les personnages et autres. On s'était dit pourquoi pas ainsi d'inviter des auteurs. Nous-mêmes, à une époque, on s'était toujours dit l'Alaska, c'est le pays où on se réveille tous les matins en disant on a le début d'un roman. Mais comme on n'est pas romancier, on s'est dit ben voilà, on va faire venir des romanciers. Donc c'était le pari, et on vous racontera ça la prochaine fois, c'est d'accueillir des romanciers à bord et de voir comment ça s'est passé, comment ils ont vécu ça. Super intéressant et magnifique expérience.